Chapitre 18, le premier de l'an. Messieurs de l'administration centrale, messieurs de la direction des beaux-arts, messieurs de l'académie de médecine, à mesure que l'huissier en grande tenue, culotte courte, épée à côté, annonçait de sa voix morne dans la solennité des pièces de réception, des files d'habits noirs traversaient l'immense salon rouge et or et venaient se ranger en demi-cercle devant le ministre adossé à la cheminée, ayant près de lui son sous-secrétaire d'État, M. de la Calmette, son chef de cabinet, ses attachés fringants et quelques directeurs du ministère, dans sa herbe béchue. À chaque corps constitué, présenté par son président ou son doyen, l'excellence adressait des compliments pour les décorations, les palmes académiques accordées à quelques-uns de ses membres, et ensuite le corps constitué faisait demi-tour, cédait la place, alors ceux-là se retirant, d'autres aux portes du salon, car il était tard, une heure passée, et chacun songeait au déjeuner de famille qui l'attendait. Dans la salle des concerts, transformée en vestiaire, des groupes s'impatientaient à regarder leurs montres, boutonner leurs gants, rajuster leurs cravates blanches sous des faces tirées et des bails morts d'ennui, de mauvaise humeur et de faim. Roumestan, lui, sentait la fatigue de ce grand jour. Il avait perdu sa belle chaleur de l'année dernière à pareille époque, sa foi dans l'avenir et les réformes. Il laissait aller ses speeches mollement, pénétré de froid jusqu'aux moelles, malgré les calorifères, l'énorme bûcher flambant, et cette petite neige floconnante qui tourbillonnait aux vitres lui tombait sur le cœur, légère et glacée comme sur la pelouse du jardin. « Messieurs de la Comédie-Française !» Rasé de près, solennel, saluant ainsi qu'un gros siècle, ils se campaient en nobles attitudes autour de leur doyen, qui, d'une voix caverneuse, présentait la compagnie, parlait des efforts, des vœux de la compagnie. La compagnie sans épithète, sans qualificatif, comme on dit Dieu, comme on dit la Bible, comme s'il n'existait d'autre compagnie au monde que celle-là. Et il fallait que le pauvre Roumestan fût bien affaissé pour que même cette compagnie, dont il semblait faire partie avec son menton bleu, ses bajoues, ses poses d'une distinction convenue, ne réveillât son éloquence sa grande phrase théâtrale. C'est que depuis 8 jours, depuis le départ de Rosalie, il était comme un joueur qui a perdu son fétiche. Il avait peur, se sentait subitement inférieur à sa fortune et tout près d'en être écrasé. Les médiocres que la chance a favorisés ont de ces transes et de ces vertiges, accrus pour lui de l'effroyable scandale qui allait éclater, de ce procès en séparation que la jeune femme voulait absolument, malgré les lettres, les démarches, ses plates prières et ses serments. Pour la forme, on disait au ministère que Madame Roumestan était allée vivre près de son père à cause du prochain départ de Madame Le Quesnoy et d'Hortense. Mais personne ne s'y trompait. Et surtout ces visages défilant devant lui, à de certains sourires appuyés, à des poignées de mains trop vibrantes, le malheureux voyait son aventure reflétée en pitié, en curiosité, en ironie. Il n'y avait pas jusqu'aux infimes employés venus à la réception en jaquette et redingote qui ne fussent au courant. Il circulait dans les bureaux des couplets où Chambéry rimait avec bachellerie et que plus d'un expéditionnaire, mécontent de sa gratification, fredonnait intérieurement en faisant une humble révérence au chef suprême. 2 heures. Et les corps constitués se présentaient toujours, et la neige s'amoncelait pendant que l'homme à la chaîne introduisait pêle-mêle, sans ordre hiérarchique, « Messieurs de l'école de droit, messieurs du conservatoire de musique, Messieurs les directeurs des théâtres subventionnés. Cadillac venait en tête à l'ancienneté de ses trois faillites, et Roumestan avait bien plus envie de tomber à coups de poing sur ce montreur cynique dont la nomination lui causait de si graves embarras que d'écouter sa belle allocution démentie par la blague féroce du regard et de lui répondre à un compliment forcé dont la moitié restait dans l'emploi de sa cravate. Très touché, monsieur. Progrès de l'art. Ferons mieux encore. Et le montreur en s'en allant. Oh, il a du plomb dans l'aile, notre pauvre Numa. Cela parti, le ministre et ses assesseurs faisaient honneur à la collation habituelle. Mais ce déjeuner, si gai l'année précédente et plein d'effusion, se ressentait de la tristesse du patron et de la mauvaise humeur des familiers qui lui en voulaient tous un peu de leur situation compromise. Ce scandaleux procès, tombant juste au milieu du débat Cadaillac, allait rendre Roumestan impossible au cabinet. Le matin même, à la réception de l'Élysée, le maréchal en avait dit deux mots dans sa brutale et laconique éloquence de vieux troupier. « Oh, une sale affaire, mon cher ministre, oh, une sale affaire !» Sans connaître précisément cette auguste parole chuchotée à l'oreille dans une embrasure, ces messieurs voyaient venir leur disgrâce derrière celle de leur chef. « Oh, femme, femme !» grognait le savant Béchu dans son assiette. Monsieur de la Calmette et ses 30 ans de bureau se mélancolisaient en songeant à la retraite comme Tircis. Et tout bas, le grand Laparat s'amusait à consterner Rochemaure. « Vicomte, il faut nous pourvoir. Nous serons ratiboisés avant 8 jours. » Sur un toast du ministre de l'année nouvelle et à ses chers collaborateurs, porté d'une voix émue où roulaient des larmes, on se sépara. Mais Jean, resté le dernier, fit 2 ou 3 tours de long en large avec son ami, sans qu'ils eussent le courage de se dire un mot. Puis il partit. Malgré tout son désir de garder près de lui ce jour-là cette nature droite qui l'intimidait comme un reproche de conscience, mais le soutenait, le rassurait. Numa ne pouvait empêcher Méjean de courir à ses visites. Distribution de vœux et de cadeaux, pas plus qu'il ne pouvait interdire à son huissier d'aller se déharnacher dans sa famille de son épée et de sa culotte courte. Quelle solitude, ce ministère! Un dimanche d'usine, la vapeur éteinte et muette. Et dans toutes les pièces, en bas, en haut, dans son cabinet, où il essayait vainement d'écrire dans sa chambre qu'il se prenait à remplir de sanglots, partout, cette petite neige de janvier tourbillonnait aux larges fenêtres, voilait l'horizon et accentuait un silence de steppe. Oh, détresse des grandeurs! Une pendule sonna 4 heures, une autre lui répondit, d'autres encore dans le désert du vaste palais où il semblait qu'il n'eût plus que l'heure de vivante. L'idée de rester là jusqu'au soir, en tête à tête avec son chagrin, l'épouvantait. Il aurait voulu se dégeler à un peu d'amitié, de tendresse. Tant de calorifères, de bouches de chaleur, de moitiés d'arbres en combustion ne faisaient pas un foyer. À un moment, il songea à la rue de Londres. Mais il avait juré à son avoué, car les avoués marchaient déjà, de se tenir tranquille jusqu'au procès. Tout à coup, un nom lui traversa l'esprit. Eh bon père, pourquoi n'était-il pas venu? D'ordinaire, au matin de fête, on le voyait arriver le premier, les bras chargés de bouquets, de sacs de bonbons pour Rosalie, Hortense, Madame Lequesnoir, aux lèvres un bon sourire expressif de grand-papa, de bonhomme, étrenne. Roumestan faisait bien entendu les frais de ses surprises, mais l'ami Bompard avait assez d'imagination pour l'oublier et Rosalie, malgré son antipathie, ne pouvait s'empêcher de s'attendrir en songeant aux privations que devrait s'imposer le pauvre diable pour être si généreux. Et si j'allais le chercher, nous dînerions ensemble. Il en était réduit là. Il sonna, se défit de l'habit noir, de ses plaques, de ses ordres, et sortit à pied par la rue Bellechasse. Les quais, les ponts étaient tout blancs. Mais le carrousel franchi, ni le sol ni l'air ne gardaient trace de la neige. Elle disparaissait sous l'encombrement roulant de la chaussée, dans le fourmillement de la foule pressée sur les trottoirs, aux devantures, autour des bureaux d'omnibus. Ce tumulte d'un soir de fête, les cris des cochers, les appels des camelots, dans la confusion lumineuse des vitrines, les feux lilas des jablokoff noyant le sol, le jaune, le clignotement du gaz et les derniers reflets du jour pâle, berçaient le chagrin de Roumestan, le fondaient à l'agitation de la rue. Et pendant qu'il se dirigeait vers le boulevard Poissonnière, où l'ancienne Cherkesse, très sédentaire comme tous les gens de l'administration et tous les gens d'imagination, demeurait depuis 20 ans, depuis son arrivée à Paris. Personne ne connaissait l'intérieur de Bompard, dont il parlait pourtant beaucoup, ainsi que de son jardin, de son mobilier artistique, pour lequel il courait toutes les ventes de l'hôtel de Rouault. Mais venez donc, un de ces matins, manger une côtelette. C'était sa formule d'invitation. Il la prodiguait, mais quiconque la prenait au sérieux ne trouvait jamais personne, se heurtait à des consignes du portier, des sonnettes bourrées de papier ou privées de leurs cordons. Pendant toute une année, l'apparat et Rochemaure s'acharnèrent inutilement à pénétrer chez Bompard, à dérouter les prodigieuses inventions du provençal défendant le mystère de son logis, jusqu'à déceler un jour les briques de l'entrée pour pouvoir dire aux invités, en travers de la barricade: « Ah, oh, désolé, mais bon, une fuite de gaz, tout a sauté cette nuit.